Salut à tous, c'est Augustin Lefebvre, journaliste à Radio Classique. Vous écoutez Retour vers le classique, le podcast qui réconcilie musique savante et pop culture. Dans cet épisode, je vais vous raconter les origines méconnues d'une des chansons les plus reprises de tous les temps. Summertime. Ce qu'on entend là, c'est la toute première version, la version originale enregistrée par Abby Mitchell, une soprano qui a participé en 1935 à la création de Porgy and Bess, un opéra signé George Gershwin. Et oui, Summertime vient de l'opéra, mais vous connaissez peut-être mieux la version de Nina Simone. Ou l'interprétation habitée de Janis Joplin. Ou encore la version des Zombies, celle de Norah Jones, la version reggae, celle au violoncelle électrique, celle avec des instruments traditionnels chinois, ma version sous la douche. Rock, jazz, disco, rap, tout y passe et c'est plus de 80 ans d'histoire de la musique que l'on peut résumer avec l'évolution de ces reprises. Impossible de faire la liste, il y en a des milliers, ça dépend des sources, certains en comptent 2000, d'autres 25 000 et le site spécialisé Summertime Connection qui s'est donné pour mission de toutes les recenser a compté plus de 70 000 enregistrements. Une telle diversité est inédite pour un air d'opéra. Aucun air de Mozart ou de Puccini ne s'est imposé comme un standard dans la pop culture. Nous allons donc retracer le parcours de cette chanson pour comprendre comment elle a atteint un tel succès. Pour commencer, présentons le père de Summertime, George Gershwin. Le compositeur est né à New York en 1898 dans une famille d'immigrés russes. Il passe sa jeunesse à faire les 400 coups dans les rues de sa ville, puis après avoir découvert le piano quand il a une douzaine d'années, il abandonne ses études pour devenir song plugger, démonstrateur de chansons. Ce métier a disparu aujourd'hui, mais à une époque où les enregistrements n'existaient pas, des musiciens étaient payés par les fabricants de partitions pour jouer dans les boutiques les nouveautés et donner aux clients envie de les acheter. À force de chanter les chansons des autres, il souhaite lui aussi en écrire et il arrive à faire publier sa première œuvre quand il n'a que 17 ans, le début d'une riche carrière musicale qui sera très influencée par ce premier travail. Dans les années 20, il se met à composer des comédies musicales pour Broadway, mais il compose aussi sa première œuvre de facture classique majeure en 1924, Rhapsody in Blue. On entend là la diversité des influences de Gershwin entre la tradition classique et la modernité du jazz. Car Gershwin est un compositeur difficile à cataloguer. Il a écrit des dizaines de comédies musicales, de la musique de film, mais il a aussi composé de nombreuses pages de musique savante, trois préludes pour piano, un concerto lui aussi pour piano en fa majeur, le morceau orchestral Un Américain à Paris, créé au prestigieux Carnegie Hall. Il fréquentait le milieu de la musique classique, il connaissait Maurice Ravel et il jouait même au tennis avec Arnold Schoenberg, autre grand compositeur américain du XXe siècle. George Gershwin est mort en 1937 et Porgy and Bess est sa dernière œuvre pour la scène. Elle date de 1935. L'histoire est adaptée d'un roman de l'écrivain Dubose Hayward qui a aussi signé les paroles de certains airs dont Summertime. Il s'ajoute aux collaborateurs habituels de George Gershwin pour les textes Ira Gershwin puisque les deux frères avaient l'habitude de travailler ensemble. L'action se passe dans Catfish Row, un quartier noir de Charleston, en Caroline du Sud, dans le sud des États-Unis. Le Porgy du titre est un mendiant estropié qui est le seul du quartier à accepter de recueillir Bess après une bagarre qui a mal tourné. Le mari de Bess a dû s'enfuir après avoir tué un joueur de dés. Bess, elle est vue comme une femme de mauvaise vie par les membres de la communauté, notamment parce qu'elle fréquente Sporting Life, un dealer qui essaye de la faire tomber sous sa coupe avec de la cocaïne. Un mois après la bagarre, le quartier est revenu à sa vie normale et Porgy chante son bonheur de vivre avec Bess, autre air connu de l'opéra, I Got Plenty of Nothing.
I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got my gal, got my son, got heaven all day long. No use complaining, I got my gal, got my Lord.
Évidemment, ce bonheur ne dure pas, nous n'en sommes qu'au début du deuxième acte, et il y en a trois, je ne vais pas vous raconter la fin, mais les péripéties s'enchaînent et les airs célèbres aussi, comme It Ain't Necessarily So, Sporting Life remet en cause la Bible.
But ain't necessarily so. To get into heaven, don't snap for a seven-ly clean. Don't have no fight.
Cette chanson a été reprise plusieurs dizaines de fois, notamment en France par Charles Aznavour, sous le titre « Ce n'est pas nécessairement ça ». Mais aucun des airs de l'opéra n'a atteint la popularité de Summertime dont je vais désormais vous parler. Summertime, ici par la grande cantatrice Leontine Price, est le premier air de l'opéra, il revient tout au long de l'œuvre. C'est une berceuse et la musique évoque d'ailleurs le va-et-vient d'un berceau. Une complainte en mode mineur pour encourager à vivre malgré la misère. Voici l'intégralité des paroles traduites. C'est l'été et la vie est facile. Les poissons sautent et le coton est haut. Ton père est riche et ta mère est belle. Chut, mon enfant, ne pleure pas. Un de ces matins, tu chanteras au réveil, tu étendras tes ailes et tu t'envoleras vers le ciel. Mais d'ici là, rien ne pourra te faire de mal. Papa et maman veillent sur toi. Dans sa première apparition, elle est chantée par Clara, un personnage secondaire. Traditionnellement, dans les opéras, les airs sont des dialogues chantés, comme si nous parlions en chantant. Là, c'est un son diégétique, c'est-à-dire qu'il appartient au monde de l'œuvre. Et cette berceuse n'a rien à voir avec l'intrigue principale, mais elle pose l'ambiance de cette communauté qui vit difficilement. Gershwin a eu beaucoup de mal à la composer, mais quand il a enfin trouvé, après des semaines de travail, sa confidente Kay Hall a tout de suite su que la chanson serait aimée par le monde entier. Summertime est fortement inspirée par les Spirituals, la musique sacrée des esclaves noirs américains, car Gershwin, qui avait une volonté presque documentaire, voulait faire entendre la musique noire dans son opéra, mais plutôt que de reprendre des chansons existantes, il a tenu à les composer pour qu'il y ait une certaine unité, Une œuvre originale donc, mais beaucoup ont remarqué la proximité de Summertime avec un autre chant, Sometimes I Feel Like a Motherless Child, que Gershwin a peut-être entendu lorsqu'il est allé à Charleston s'imprégner de l'atmosphère pour écrire son opéra. Une ressemblance frappante à tel point que la chanteuse de gospel Mahalia Jackson a réalisé un medley des deux.
Dead in mommy, they'll be standing by. Sometime I feel like a motherless child.
Cette volonté de faire entendre de la musique traditionnelle, de mélanger spirituals, jazz et musique classique dans un même opéra, bien cela a créé beaucoup de débats sur la catégorisation de l'œuvre et sur cette étiquette d'opéra. Sur le programme des premières représentations, Porgy and Bess est décrit comme un opéra américain populaire. Pas question de donner le spectacle dans une salle d'opéra, Gershwin veut Broadway comme pour une comédie musicale. Le ton est inhabituellement sérieux et ce mélange des genres déconcerte. Porgy and Bess marche beaucoup moins bien qu'un spectacle traditionnel de Gershwin. Alors pour tenter de rentrer dans ses frais, le compositeur publie à part les partitions de certaines chansons, dont Summertime. C'est ainsi que commence cette longue série de reprises et la première, en tout cas la première suffisamment marquante pour être retenue, et celle de la chanteuse Billie Holiday, moins d'un an après la création de l'opéra. Nous sommes en
1936.
Cette chanson était déjà populaire dans l'opéra et elle gagne petit à petit de plus en plus de popularité avec la première reprise du spectacle à Broadway en 1942, avec un film Porgy and Bess en 1959 et avec ces fameuses reprises qui entretiennent cette popularité. Parmi celles qui contribuent à la large diffusion de la chanson, la version d'Ella Fitzgerald et de Louis Armstrong.
These mornings, you're gonna rise up singing.
Bref, Summertime est devenu ce qu'on appelle un standard du jazz, un morceau incontournable du répertoire qui sert de base aux improvisations des musiciens et qui existe donc en autant de versions qu'il y a de personnalités, chacun y met sa patte. Difficile d'endormir un enfant avec la version du saxophoniste John Coltrane. Essayez peut-être plutôt la version du trompettiste Miles Davis. Ça, ce sont pour quelques-unes des versions historiques de Summertime, mais il serait sans doute plus simple de dire qui ne l'a pas reprise. Du jazz, elle est passée dans le rock et dans la pop. Si vous voulez explorer, c'est assez fascinant. Vous recherchez sur Internet Summertime plus le nom d'un artiste ou d'un genre. Il est fort probable que vous allez tomber sur quelque chose. Dans les versions, comment dire, intéressantes, voici la version ska. Mais il y a aussi la version funk.
Oh, yeah, daddy's rich. Hey, mama, she's good looking. She's good looking. Yeah, yeah. So hush, little
la version creepy, c'est-à-dire effrayante. Etc, etc, etc. Mais devant tant de choix, il est peut-être bon de s'interroger, c'est quoi au juste une bonne reprise ? Question difficile qui suscite de longs débats, et pour résumer, je pense que ça tient dans un subtil équilibre, équilibre entre le respect de l'œuvre originale et l'appropriation par l'artiste. Le respect, c'est avoir en tête l'esprit de l'œuvre. L'appropriation, c'est la touche personnelle. Aucun intérêt à refaire une chanson si c'est pour refaire la même chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe autant de versions de Yesterday, de Johnny B. Goode ou de Comme d'habitude, ou plutôt de My Way. Chacune essaye d'apporter quelque chose et j'ai ainsi pu passer 2 semaines à travailler sur Summertime sans jamais être lassé par toutes les versions que j'ai découvertes. La reprise est aussi parfois un manifeste artistique, une façon de dire « voilà mon style ». Comme l'original est connu, les particularités stylistiques de la reprise ressortent. Comment apporter quelque chose ? Si les paroles et la mélodie restent les mêmes, les instruments choisis, la vitesse d'interprétation et la façon de chanter peuvent donner une nouvelle signification à la chanson. Prenons un exemple, Hurt du groupe de rock industriel Nine Inch Nails, une chanson sur l'automutilation et la dépendance à la drogue. Enregistrée quelques mois avant sa mort par Johnny Cash, elle devient la dernière lettre d'un homme malade qui se souvient de sa vie. Attention, larmes dans 3, 2, 1.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real.
La reprise devient parfois tellement populaire qu'elle devient la version de référence, à tel point qu'on oublie parfois l'original. Le meilleur exemple est sans doute la version de All Along the Watchtower, une chanson de Bob Dylan à l'origine, reprise par Jimi Hendrix.
There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief.
Businessman there, drink my wine, come and take my earth. None will level on the mind, nobody of it is worth.
Cette version de Jimi Hendrix est tellement marquante qu'à son tour, elle a été reprise. Tout ce que je vous raconte sur les reprises peut sembler assez éloigné de la musique classique. Et pourtant, même si le parallèle a ses limites, on retrouve dans la musique classique les mêmes enjeux avec la question de l'interprétation. Là aussi, on part d'une base qui est la partition, et l'artiste, qu'il soit instrumentiste ou chanteur, va apporter sa marque. Il va choisir le tempo, les nuances, le phrasé, les accentuations dans le respect de la partition, mais sa version ne ressemblera pas forcément à ce qui a déjà été fait, ce qui explique pourquoi, là aussi, on continue sans cesse à enregistrer certaines œuvres, parfois plusieurs siècles après leur composition, et ça explique aussi pourquoi certains musiciens enregistrent la même œuvre plusieurs fois dans leur carrière. Certaines fois, l'interprétation est tellement marquante que l'original est éclipsé. Et on parle par exemple de la 5e symphonie de Karajan, le nom de chef d'orchestre remplaçant celui de Beethoven. Prenons là aussi un exemple avec la même partition du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Voilà ce que font Glenn Gould et Sviatoslav Richter, deux des plus grands pianistes de l'histoire.
Thank you.
Pour les mélomanes, ces différences d'interprétation provoquent des débats parfois enflammés. Là aussi, il est souvent question de déterminer une fois pour toutes la meilleure version d'une œuvre. On est loin du cliché d'une musique classique poussiéreuse et figée. Le classique est bien vivant aujourd'hui. Et c'est ce que je m'attache à montrer depuis le début de ce podcast, dont la première saison se termine avec cet épisode. Mais avant de conclure cette émission, il faut toutefois que j'aborde un dernier point. J'avais prévu depuis longtemps d'achever cette première saison avec Porgy and Bess, un opéra qui s'inspire de la musique traditionnelle noire, du jazz, et qui est devenu à son tour une référence dans la pop culture. Mais la dernière partie de l'épisode trouve un écho brûlant dans l'actualité, car depuis des décennies, en parallèle de cette histoire des reprises de Summertime, il y a aussi des débats sur le racisme de Porgy and Bess, parce que depuis sa création, certains y voient une représentation cliché des Afro-Américains qui seraient adeptes des jeux d'argent, de l'alcool, qui ne sauraient pas s'exprimer correctement, une représentation signée par un groupe de blancs qui s'approprie cette culture pour en faire de l'argent. Aujourd'hui, l'œuvre est toujours jouée, elle est reconnue comme une œuvre majeure de l'art américain, mais le débat existe toujours. En 2012, une mise en scène a d'ailleurs tenté de recontextualiser l'opéra et a réécrit certains passages pour en diminuer les stéréotypes. Mais il y a aussi un point de vue opposé. Certains estiment que Porgy and Bess est une excellente façon de donner de la visibilité aux Noirs dans le monde très blanc de l'opéra, de lancer la carrière de certains chanteurs. La quasi-totalité des 24 rôles sont des personnages noirs, seuls quelques-uns sont blancs, comme les policiers qui arrêtent arbitrairement Porgy lorsqu'il refuse de témoigner dans l'enquête sur la bagarre. Il faut dire que les Gershwin ont refusé le blackface dans la mise en scène de l'opéra, cette pratique raciste qui consiste à se maquiller le visage en noir, qui vient de la tradition de la caricature stéréotypée des Afro-Américains. Aujourd'hui encore, les détenteurs des droits sur l'opéra veillent à ce que cette volonté soit respectée, ce qui provoque parfois des polémiques, comme lorsque l'Opéra de Hongrie a décidé durant la saison 2017-2018 de faire une mise en scène de Porgy and Bess avec une distribution entièrement blanche. La volonté était de transposer l'action dans un centre pour migrants et l'Opéra a demandé aux chanteurs, tous blancs donc, de signer une déclaration pour attester que, je cite, « les origines et l'identité afro-américaine sont inséparables de mon identité, je suis donc particulièrement heureux de jouer dans cet opéra ». Au-delà de l'opéra de Hongrie, les institutions de la musique classique ont encore beaucoup à faire pour la diversité. En 2018, on pouvait encore voir une blackface à l'opéra de Paris, et voilà ce que disait en 2015 le chorégraphe Benjamin Millepied, alors à la tête du ballet de l'opéra de Paris. « J'ai entendu très clairement en arrivant qu'on ne met pas une personne de couleur dans un corps de ballet parce que c'est une distraction. C'est-à-dire que s'il y a 25 filles blanches avec une fille noire, on ne va regarder que la fille noire. Un corps de ballet, tout le monde doit être pareil. Pareil, ça veut dire que tout le monde doit être blanc. C'est une énorme connerie de dire ça. Il faut que je casse cette idée qui est raciste. Comment on va changer le public du ballet si on n'a pas des gens sur scène dans lesquels le public peut se reconnaître ?» Quelques mois plus tard, Benjamin Millepied démissionnait probablement à cause de l'inertie à laquelle il s'est heurté. Et d'après une étude publiée en 2014, il y avait moins de 2% de musiciens afro-américains dans les orchestres américains et 4% de chefs seulement. Cette invisibilisation de la diversité passe aussi par l'occultation des compositeurs noirs comme pour les femmes dans l'histoire de la musique classique. Ainsi, on a oublié Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges, escrimeur de talent, mais aussi compositeur très respecté de la deuxième moitié du XVIIIe siècle à la cour de Louis XVI. Oublié aussi George Bridgewater, virtuose du violon à qui Beethoven avait dédié sa sonate numéro 9, qui est connue aujourd'hui comme la sonate à Kreutzer, puisque Beethoven a finalement changé de dédicace. Oublié Samuel Coleridge Taylor, surnommé le Gustave Malheur Noir, et la liste continue. Si vous cherchez un opéra qui met en scène des personnages noirs et qui mélange musique classique et musique afro-américaine, mais écrit cette fois par un compositeur noir, écoutez « Trimonisha » de Scott Joplin, écrit en 1911. Voici un extrait du final.
Thank you.
Suite aux manifestations de ces dernières semaines, le monde de la musique classique est lentement en train de prendre conscience du problème et des changements sont en train de se produire. Une marque de chaussures de danse va par exemple commercialiser de nouvelles teintes afin que les danseuses de couleur n'aient plus à repeindre leurs pointes. Et le prestigieux Metropolitan Opera de New York promet d'œuvrer davantage pour soutenir l'égalité raciale. Ça va dans le bon sens et on attend maintenant la traduction concrète de cet engagement. Pour résumer cet épisode, l'une des chansons les plus reprises et les plus connues de l'histoire de la musique est en fait un air d'opéra et chacune des réinterprétations depuis 1935 permet de redécouvrir cette berceuse car l'objectif d'une bonne reprise est d'apporter une touche personnelle à une mélodie existante et refaire l'histoire de cette chanson, c'est aussi mettre en lumière l'invisibilisation des personnes de couleur dans la musique classique. C'était Retour vers le classique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur radioclassique.fr. Vous retrouverez sur l'article dédié à cet épisode les morceaux que je vous ai fait écouter en intégralité. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous sur les plateformes habituelles de podcast. Merci d'avoir écouté. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des encouragements durant cette première saison. Merci à l'accueil que vous avez réservé à ce podcast. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour de nouvelles découvertes musicales. À bientôt.